It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans l'Amérique et vous, édition du vendredi 10 mai 2024. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons de la gestion policière des manifestations pro-palestiniennes et la liberté d'expression dans les campus américains après plusieurs jours de manifestations dans des universités américaines pour dénoncer la guerre à Gaza et soutenir les Palestiniens. Les forces de l'ordre sont intervenues manu militari dans certains campus. Près de 2000 personnes ont été interpellées, des campements démantelés et certains étudiants redoutent désormais des sanctions. Comment comprendre l'ampleur de ces manifestations? La liberté d'expression, la répression des dites manifestations compromet-elle la liberté d'expression dans les campus? Quelle solution à ce problème israélo-palestinien? Nous en parlons avec Jean-François Cesnec. Il est politologue et directeur de Lafayette Group. Mohamed Mbodge, professeur d'histoire au Manhattanville University de New York. Et nous espérons avoir Joël Didier Engo. Il est activiste des droits humains et le spécialiste des relations internationales. Il est basé à Paris en France. Nous les retrouvons dans quelques instants pour les échanges.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Voilà, bon retour donc dans ce studio pour écouter l'Amérique et vous de ce 10 mai 2024. Professeur Mohamed Mbodge, bonsoir. Voilà, aujourd'hui nous parlons des manifestations pro-palestiniennes qui secouent les universités américaines depuis quelques semaines déjà. Vous qui êtes enseignant, je le disais, au Manhattanville University de New York, comment est-ce que vous avez vécu ces manifestations là-bas? Quel est l'impact de ces manifestations sur vos activités, l'activité de vos collègues?
Sur notre campus, il n'y a pas beaucoup de choses qui se soient passées, il faut le reconnaître. Mais on est à moins d'un kilomètre d'un campus du SUNY System, State University of New York, Bushes, où il y a eu des désagréments majeurs. La police est intervenue, les étudiants sont revenus, la police est réintervenue. Je ne suis même pas sûr qu'ils vont avoir le commencement, donc la fin de l'année, la délivrance des diplômes en public. Donc, c'est un événement majeur sur beaucoup de campus, dispersés sur le territoire américain et maintenant même en Europe, où il y a aussi des manifestations pareilles. Alors, sur le plan des collègues que je connais et chez qui donc ces perturbations ont été constantes, parce que j'ai été plein temps à Columbia et puis ensuite j'ai enseigné à moitié, disons. Donc l'atmosphère est très tendue, donc il y a une division très nette entre les étudiants et la majeure partie des professeurs d'une part, et de l'autre côté l'administration, et donc les choses sont bloquées, et je crois que le futur nous réserve des surprises dans ce cas-là.
Merci beaucoup Mohamed Mbodge, professeur d'histoire au Manhattanville University de New York. Alors retrouvons Jean-François Cesnec, politologue et directeur de Lafayette Group. Bonsoir Jean-François Cesnec.
Oui, bonsoir.
Alors, ces manifestations se déroulent déjà depuis plusieurs jours. On les voit un peu partout dans beaucoup de campus. Comment expliquer l'ampleur de ces manifestations? Que revendiquent exactement ces gens qui manifestent? Est-ce qu'il s'agit d'un soutien au Hamas ou est-ce qu'il s'agit d'une hostilité vis-à-vis d'Israël? Comment est-ce que vous expliquez ces manifestations?
Écoutez, j'étais aussi enseignant à Columbia pendant de nombreuses années. Et je pense que les étudiants ne sont pas pro-Hamas en tant que tels, ils sont vraiment pour la justice en Palestine je pense que effectivement les problèmes ne vont pas être résolus très rapidement. C'est vraiment en fait une situation plutôt anti-israélienne que pro-Hamas. Et ils sont anti-israéliens parce que depuis de nombreuses décades, les Israéliens ont une politique vis-à-vis des Palestiniens, pas seulement de Gaza, mais des Palestiniens du West Bank et de Gaza, qui n'était vraiment pas acceptable par la communauté internationale. Donc ils ont montré beaucoup de courage en sortant dans la rue et faisant leur campement. Alors j'espère que ça va peut-être s'arranger, mais je ne suis pas non plus très optimiste.
Retrouvons donc en France Joël Didier Engo, il est activiste des droits humains, spécialiste des relations internationales. Joël Didier Engo, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, la France également, comme de nombreux autres pays européens, est touchée par cette vague de manifestations pro-palestiniennes, y compris dans les universités. Comment est-ce qu'en France, vous vivez cela là-bas? Et comment expliquer le fait que ces manifestations se répandent aussi rapidement dans le monde?
Disons que la France est touchée par ces manifestations, je dirais même que ça, elles arrivent un peu tardivement parce que elles étaient en sous-jacente à une frustration qui montait depuis des mois en France. Vous savez qu'on a une des plus grandes communautés juives en Europe, en France, et on a aussi une des plus grandes communautés arabo-musulmanes et maghrébines en France. Ça ne veut pas dire que ce sont des manifestations communautaires où l'indignation est communautaire, mais simplement en France, on a aussi un truchement depuis des années déjà où, au nom de la lutte contre le terrorisme, on a petit à petit corseté tout ce qui est la liberté d'expression et de la liberté de manifestation et de rassemblement public. C'est-à-dire qu'on est en fait sous une loi d'exception qui ne dit pas son nom depuis. En fait, vous avez suivi les gilets jaunes, les manifestations des gilets jaunes. Ce qui fait qu'avec le problème israélo-palestinien et surtout les bombardements à Gaza, il régnait en fait en France une forme de terreur médiatique et politique qui ne voulait pas qu'on s'indigne de manière publique sur les crimes de masse à Gaza. Et ce qui fait que les gens étaient en fait frustrés. Et quand vous connaissez comment se passent les campus universitaires où les gens sont très portés sur les causes humanitaires, ça devait exploser à un moment ou à un autre. Donc ce que nous vivons en fait n'est que la résultante d'une terreur et véritablement d'un macartisme à la française où on a tué les gens, on a fait véritablement une chasse aux sorcières par rapport à des intellectuels, à des universitaires et même à des gens comme nous qui sommes des défenseurs des droits humains sur la question palestinienne. Aussitôt, on vous mettait de l'apologie contre le terrorisme ou même de l'antisémitisme, alors que nous défendons, et les gens qui se manifestent défendent simplement le droit à la vie, le droit à la vie des Israéliens comme le droit à la vie des Palestiniens, et défendent surtout demande un cessez-le-feu immédiat et une solution de deux États. Vraiment la lecture du droit international la plus intégrale.
Alors, Mohamed Bodj, la police américaine est intervenue dans les campus. On a vu des interpellations, des démantèlements de campements, et certains étudiants redoutent même déjà des représailles au niveau des universités, des représailles même académiques. Alors, Mohamed Bodj, comment est-ce que vous expliquez ce niveau de répression? Est-ce qu'on pourrait dire que la liberté d'expression, la liberté de manifestation est en péril ici aux États-Unis, notamment dans les campus?
Si on est neutre, on ne peut que conclure cela. La police intervient évidemment de façon assez rude, en particulier en fonction des élections de novembre. Il y a des partis des États-Unis où la loi et l'ordre semblent être un tout petit peu à l'agenda et il y a une sorte de reproche que la police n'a pas beaucoup fait contre Black Lives Matter. Donc c'est une sorte de rattrapage, en particulier pour la police new-yorkaise qui un tout petit peu met les bouchées doubles pour apparaître comme étant le garant de l'ordre. Et tout cela est en fond, effectivement, il y a cet amalgame que Israël, ce sont les Juifs. Le sionisme, c'est Israël, et si on est contre le sionisme, on est on est contre Israël, et si on est contre Israël, on est contre les Juifs. Et donc, il y a même une définition fabriquée, rédigée par une organisation internationale qui, disons, s'érige contre l'Holocauste pour que les gens se souviennent de l'Holocauste. Et c'est cette définition que le Congrès américain est en train de débattre et d'adopter. Si cette définition de l'antisémitisme est adoptée, ça va être un recul très grave des libertés publiques et en particulier de la liberté d'expression. Par exemple, des phrases telles que « Israël est un État raciste », ça devient un crime. Dire que l'apartheid est pratiqué en Israël, ça deviendra un crime, etc., etc. Donc, effectivement, il y a bien une peur qui prend les gens, qui, en particulier donc, le First Amendment, qui est en train d'être un peu souillé par une précipitation qui, finalement, va être liberticide.
Jean-François Seznec, je voudrais avoir votre avis, votre regard sur la répression des manifestations contre ces oui. étudiants. On imagine que les autorités sont tiraillées entre, d'un côté, la liberté de manifester, de s'exprimer, garantie par la Constitution, et le respect de l'ordre, Jean-François Seznec.
Oui, bien sûr. Tout le monde veut qu'il y ait l'ordre et tout le monde voudrait que ça se passe de façon gentille et sympathique, avoir des grands rapports entre les communautés. Mais malheureusement, il faut voir que depuis déjà très très longtemps, il n'y a pas de liberté d'expression sur ce problème palestinien-israélien dans les campus. Comme a dit Mohamed Si justement, il n'y avait vraiment pas, on n'a pas eu la possibilité sur les campus de discuter les problèmes du sionisme et de voir qu'Israël était fondamentalement un État raciste. Donc le fait de dire ça, c'était assez pendant des dizaines d'années, c'était assez pour être mis à la porte d'une université. Donc maintenant, les étudiants ont le courage de se battre contre ça, et beaucoup de professeurs aussi. Ce qui se passe, c'est que certains professeurs sont même mis à la porte à cause de ça. Donc effectivement, la police, si vous voulez, est coincée entre cette idée de liberté d'expression, la liberté des jeunes de montrer qu'ils ont du courage pour se battre pour quelque chose qui vaut la peine. Et ça devient très, très difficile. Je ne sais pas comment les administrations, comme à Columbia, où le président de Columbia est d'origine égyptienne, hein, c'est une dame d'origine égyptienne, comment ils vont faire pour présenter le problème actuel.
Alors, Joël Didiengo, vous connaissez très bien les États-Unis, même si vous vivez désormais en France. Alors, les États-Unis, Israël est un allié de longue date des États-Unis. Et on a l'impression que Washington protège son allié, coûte que vaille. Est-ce que ce n'est pas aussi un rejet de la politique américaine vis-à-vis d'Israël par rapport à cette situation, par rapport à cette guerre avec le Hamas palestinien? Quel est votre avis à ce sujet?
Je ne pense pas qu'au fond il y ait un rejet au niveau des campus, je veux dire en France, hein, Sciences Po et les autres, de la politique américaine dans ce sens-là. Les gens ne sont pas surpris que les États-Unis protègent Israël, qui a toujours été, et c'est tout à fait normal qu'on protège Israël par rapport à ce qui est son histoire et par rapport à sa situation géographique. Mais ce qui est le nœud du problème, c'est que les gens s'étonnent que, et c'est d'ailleurs ce qui a, heureusement, Joe Biden dernièrement sur CNN l'a reconnu, que les États-Unis, par rapport à aux lois américaines, arme Israël, sachant très bien qu'Israël, l'armée israélienne n'est pas dans un conflit armé par rapport à un adversaire en face. L'armée israélienne tue des civils. Et c'est ça qui a en fait stupéfait les gens et qui énerve et qui indigne les gens, quelles que soient les sensibilités, qu'on continue à armer un gouvernement d'extrême droite qui a un projet ségrégationniste, suprémaciste et qui affirme ouvertement qu'il veut être dans un projet de nettoyage ethnique et que c'est les États-Unis, quand on connaît bien la loi américaine, quand on connaît bien la diplomatie américaine qui arme ce gouvernement-là et continue à l'armer alors que les faits sont là. Les faits, on est à 106 000 morts et jusque-là, on attendait un sursaut du gouvernement Biden, de l'administration Biden. Il vient peut-être tardivement parce que les morts ne reviendront plus, mais au moins, on est de plus en plus optimiste en se disant ils ouvrent enfin les yeux. On n'est pas dans une problématique contre Israël en France. On n'est pas dans une problématique, et même une problématique simplement sioniste ou anti-sioniste ou antisémite, comme ils veulent réduire ça. On est dans une problématique vraiment de protection d'une population vulnérable. Elle aurait pu être palestinienne, comme elle aurait pu être israélienne, comme on a été tous indignés par ce qui est arrivé le 7 octobre 2023. C'est comme ça que les gens raisonnent. Vraiment, nous assistons simplement à un cynisme d'une classe politique qui récupère la question israélo-palestinienne à des fins politique interne à la France, où c'est l'extrême droite en collusion avec l'extrême droite israélienne qui refait sa virginité en fait en s'emparant maintenant à revers, elle qui est antisémite dans ses fondements, reprend à rebours maintenant la question pour plaquer l'antisémitisme sur les populations qu'elle vilipende à longueur de journée, qui sont les minorités noires, arabes, musulmanes.
C'est oui, ça qu'on pratique. Parlons justement de cette affaire d'antisémitisme et je me retourne là vers le professeur Mohamed Mbodj. Alors, Joe Biden dit ceci, nous avons vu une augmentation redoutable de l'antisémitisme en Amérique et dans le monde. Alors, Mohamed Mbodj, est-ce qu'il a raison d'évoquer cette question de l'antisémitisme? Qui en voudrait aux Juifs et pourquoi?
En tout cas, les journaux en parlent et ce que les gens oublient souvent, c'est qu'il y a des définitions avec lesquelles la police travaille. Et cette définition, elle est fondamentalement, le niveau est très bas. Beaucoup de choses sont considérées comme antisémitiques. Évidemment, quand on peint la swastika, on peut en déduire quelque chose, mais quelquefois des incidents ou des pickpockets dans des quartiers où beaucoup de juifs vivent, tout de suite ça devient des incidents antisémitiques. Lorsqu'on proteste contre la façon dont certaines écoles, certaines yeshivas fonctionne ici à New York où ils délivrent des diplômes alors que les étudiants ne sont formés à pas à grand chose, on devient antisémite. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. À titre d'exemple, je vous donne l'Angleterre. L'Angleterre a adopté donc une définition très lâche donc de l'antisémitisme et a permis à beaucoup de gens de porter plainte. Alors, depuis que ces lois sont en existence en Angleterre, disons il y a une année, il y a eu une quarantaine de cas devant la justice. Et sur la quarantaine de cas, il n'y a que deux cas qui ont été considérés comme des cas valables et pour lesquels la justice a continué à faire son travail. C'est-à-dire que donc les 38 autres cas sont considérés comme des cas frivoles ou en tout cas qui ne méritent pas que la justice y penche. Donc, ce qui fait que tous ces incidents antisémitiques dont on parle, au fond, la grosse majorité certainement ne vont pas répondre à un antisémitisme, disons, patent ou réel, ou c'est plus une perception. Et d'ailleurs, quelque chose d'absurde est en train de se passer. Les étudiants qui protestent en particulier à Columbia, à Brown, etc., et dans tous ces collèges, il y a une très grosse participation d'étudiants juifs. Comment ces gens-là peuvent-ils être dans cet amalgame qu'ils sont aussi antisémitiques par rapport à leur propre groupe qu'ils identifient comme étant leur groupe? Et d'ailleurs, c'est de la valeur, donc des valeurs de ce groupe dont ils se prévalent pour venir défendre la liberté ou en tout cas pour venir demander qu'il y ait plus de sécurité pour les Palestiniens. Mais tous ces mouvements sont caractérisés comme étant antisémitiques. Alors qu'il y a une forte participation de juifs dans ces mouvements. Donc c'est un peu la quadrature du cercle et les politiciens, évidemment, comme on dit, ils, ils sont sur la vague et ont le temps, le micro et la caméra, ils parlent et ils vont essayer de l'utiliser comme arme électorale. Déjà, c'est une arme pour lever des fonds énormes. EPAC est en train de mobiliser des centaines de millions de dollars pour certains candidats. Et donc, c'est comme ça que c'est à très courte vue, mais effectivement, on a des problèmes et ce n'est pas réglé d'avance.
Jean-François Sexnec, votre avis, Joël Didier Ngo disait qu'en France, certains partis d'extrême droite en profitent pour poser ce problème-là. Mohamed Mbodj vient également de le rappeler. Parfois, ça sert à lever les fonds dans les communautés juives et tout cela. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de manipulation dans la qualification de ce qui se passe en rapport avec l'antisémitisme?
Oui, absolument. Ben, je pense que il y a une assimilation de l'antisémitisme avec l'anti-sionisme et l'anti-Israël et contre les Palestiniens. Donc, et ça, ça fait déjà très très longtemps que ça existe, mais maintenant qu'il y a une résurgence, un développement des manifestations, effectivement, beaucoup de gens essayent d'en profiter pour monter des fonds nécessaires, et ça arrive malheureusement à un temps très difficile dans la politique américaine où le président Trump va prendre beaucoup, les républicains vont prendre avantage de ça pour essayer de montrer que les démocrates ont été faibles. Et du côté démocrate, il est certain que beaucoup de démocrates sont contre Israël, y compris beaucoup de démocrates juifs, comme le disait Mohamed. Et ça, nous avons donc une sorte de mainmise sur le terme antisémite qui est utilisé de façon tout à fait anormal, si vous voulez, mais qui en fait existait déjà comme ça depuis très très longtemps.
Alors, Joël Didier Ngo, nous sommes en année électorale ici aux États-Unis. Il y aura une présidentielle en novembre. Est-ce que vous pensez que la gestion de ces manifestations et de cette crise entre le Hamas et Israël peut avoir un impact, notamment pour Joe Biden qui est candidat à sa réélection?
Effectivement, elle peut avoir de l'impact au sein du Parti démocrate. On voit déjà les lignes qui se fracturent quand vous voyez le sénateur Sanders qui parle et qui dit à Joe Biden qu'il risque d'être le président d'un seul mandat s'il s'entête à être dans cette ligne, je dirais, Blinken, où on continue aveuglément d'armer une armée d'occupation et même maintenant de nettoyage ethnique. Il risque d'avoir des au niveau du Parti démocrate, ce sera quand même difficile lors du prochain congrès d'investiture, parce qu'on voit déjà qu'il faudra que Joe Biden règle ce problème très vite s'il veut, et ce n'est pas par hasard qu'il a adopté l'attitude dernièrement en disant que si Netanyahou insiste par rapport à Rafah, il ne va pas lui fournir les armes nécessaires, parce que c'est une question interne au Parti démocrate. Là, il va devoir s'expliquer. Heureusement qu'il peut lui s'expliquer. C'est là aussi où on a une différence avec la France. Aux États-Unis, le débat existe, est protégé par le premier amendement. Mais je vous dis qu'en France, c'est un tabou total.
Voilà.
C'est un tabou général.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. On va donner une minute au professeur Mohamed Mbodj pour donner son avis, l'impact possible de cette crise sur la présidentielle de novembre. Rapidement.
Ah oui, il y a une mobilisation très forte d'abord pour ne pas soutenir Biden maintenant, et ce mouvement va s'étendre durant les vacances et à la reprise de l'année scolaire au mois de septembre. Et effectivement, c'est le couteau sur la gorge que Biden doit faire de marche arrière, ou en tout cas faire preuve d'une plus grande dextérité, mais il risque de manquer les voix des jeunes et les voix d'une partie de la gauche. Donc du Parti démocrate.
Merci beaucoup pour la concision, professeur Mohamed Mbodj. C'est avec vous que nous mettons un terme à cette édition de l'Amérique et vous, à la présentation Mohamedou Oumfa. Georges Léonard Sagnon était là, l'homme au doigté magique. Merci à tous les invités et à tous les auditeurs. Dans quelques instants, le monde aujourd'hui avec l'irremplaçable Jacques Aristide. On reste en contact sur notre page Facebook et sur notre site web www.voaafrique.com.